Lizzie présente Louis XIV, le roi soleil. De Max Gallo de l'Académie française. Lu par Philippe Sollier. Je vous enseignerai, mon fils, un moyen aisé de profiter de tout ce que les courtisans diront à votre avantage. C'est de vous examiner secrètement vous-même et d'en croire votre propre cœur plus que leur louange. Mes projets et leurs motifs, je vous les expliquerai sans déguisement, aux endroits même où mes bonnes intentions n'auront pas été heureuses, persuadé qu'il est d'un petit esprit et qui se trompe ordinairement de vouloir ne s'être jamais trompé. Louis XIV. Mémoire pour l'instruction du dauphin. Prologue. Louis Dieudonné. Il est debout, devant le lit de sa mère. Il sait qu'elle va mourir. Il voudrait rester impassible, parce qu'il est le roi, celui qu'on appelle déjà Louis le Grand. On le guette. Il ne doit montrer aucune faiblesse. Il se cambre, il croise les bras, il redresse la tête, mâchoire serrée. Il domine de sa haute taille la foule des courtisans qui se pressent dans cette chambre du palais du Louvre où l'on a transporté la reine-mère. Il fait un pas. Il veut s'approcher d'elle, la voir et l'entendre encore. Elle murmure « Ah Seigneur, je vous offre ces douleurs. Recevez-les pour satisfaction de mes péchés. » Il se penche vers elle. Elle ouvre les yeux et il reconnaît son regard, celui d'autrefois, quand elle était la forte, la rayonnante Anne d'Autriche, la régente, la reine, et qu'il marchait vers elle, si fier d'être son fils, de sentir qu'elle l'admirait, qu'il la comblait de joie. Et il était heureux de s'incliner devant elle, puis de saluer d'un hochement de tête toutes les suivantes aux cheveux bouclés tombant sur leurs épaules, souvent nues. Qu'était-elle devenue, cette mère, cette reine, la courageuse, la déterminée Anne d'Autriche, fuyant la nuit les grands seigneurs en révolte, défendant bec et ongles le pouvoir royal. Il voit ses mains, jadis si fines, enflées et déformées. La peau des bras est marbrée, les chairs gangrenées. Les médecins et les chirurgiens ont entaillé les abcès, les tumeurs qui se sont depuis quelques jours multipliées. Ils ont percé les seins, y enfouissant des morceaux de viande pour que le cancer s'en nourrisse, ne dévore plus le corps. Ils ont versé sur les plaies à vif de l'eau de chaux pour les nettoyer, brûler les impuretés, les miasmes, ont-ils dit. Ils ont bandé la poitrine et les épaules avec des pansements que les humeurs nauséabondes ont imbibés et jaunis. Anne d'Autriche a pourtant la force d'esquisser un sourire, de dire « Ah, voilà le roi !» Puis, tentant en vain de lever la main, elle ajoute « Allez, mon fils, allez souper !» Il hésite. Les médecins lui assurent que la mort recule parce que leur traitement est efficace. Chaque matin et chaque soir, il découpe avec des rasoirs les parties corrompues. La reine va survivre, et avec l'aide de Dieu, terrasser la maladie. Louis sort de la chambre, suivi par la foule qui jacasse. Tout à coup, il s'arrête. Il ne peut oublier le corps noirci de sa mère. La puanteur des chairs purulentes a aussi envahi l'antichambre. Il s'arrête. Il entend sa cousine, la grande mademoiselle, dire de sa voix aiguë « C'est une telle odeur qu'on ne peut souper quand on s'en retourne après l'avoir vu penser. » Il la toise. Elle courbe la nuque. Il rentre dans la chambre. C'est le milieu de la nuit du 20 janvier 1666. Il s'approche à nouveau du lit. Il est effrayé. Il a suffi de ces quelques minutes pour que le visage d'Anne d'Autriche que la maladie avait épargné jusqu'alors devienne une boule noirâtre, aux traits effacés, aux yeux enfoncés. Les cheveux sont épars, ternes. La peau du crâne apparaît entre les mèches. Louis mord ses lèvres pour ne pas crier. Il sent qu'il va pleurer. Lui, Louis le Grand, lui, le roi soleil, il ne doit pas dévoiler son désespoir, cette émotion qui le submerge, qui le fait trembler. Ils sont là, tous aux aguets, à l'observer. Il craint de tomber. Il cherche un appui, tend les mains en arrière, s'accroche au rebord d'une table en argent massif. Il ferme les yeux. Il prie. Quelqu'un crie « La reine se meurt !» Il lui semble reconnaître la voix de monsieur, son frère cadet, Philippe, duc d'Orléans, qui était lui aussi au chevet de leur mère. Louis voudrait avancer, mais sa vue se trouble. Il chancelle. Les voix et les rumeurs s'estompent. On répète près de lui « le roi tombe !» Il tente de se redresser. Des mains le soutiennent. Il est cet enfant de 5 ans qui marche le 14 mai 1643 vers le cercueil de son père. Une voix lance « Le roi est mort, vive le roi !» On s'était incliné devant lui, Louis XIV, fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Et aujourd'hui, c'est elle qui meurt. Il n'ouvre pas les yeux. Il se laisse porter hors de la chambre. Tout ce qu'il a appris de ses parents surgit de sa mémoire. Son premier valet de chambre, Niert, qui avait été valet de la garde-robe de Louis XIII, lui avait par bribes raconté comment ses parents avaient été mariés à 13 ans, en 1615, contraints de consommer leur union. Et pendant plus de 20 ans, on avait jugé Anne d'Autriche stérile et murmuré que Louis XIII préférait aux femmes ses jeunes favoris, aristocrates élégants et beaux, couverts de dentelles et comblés de titres et de cadeaux. Et puis, une nuit, à la fin de cette année 1637, où les devins et les astrologues avaient annoncé qu'un enfant naîtrait enfin du couple royal, Louis XIII s'était présenté au palais du Louvre, où logeait avec ses suivantes Anne d'Autriche. C'était le 5 décembre. Louis XIII s'était attardé plusieurs heures au couvent Sainte-Marie de la Visitation rue Saint-Antoine, y bavardant à travers la grille avec Louise Angélique de Lafayette, l'une de ces femmes dont il proclamait qu'il les aimait, mais on le soupçonnait de se servir d'elle comme d'un paravent, pour masquer ses amours homosexuels, son vice italien, et de mener avec elle un duel galant et anodin. Louise Angélique s'était retirée du monde, lassée de ses enfantillages ambigus, et elle avait invité Louis XIII à aller retrouver son épouse, à accomplir son devoir conjugal de roi. Elle s'était engagée à prier pour que cette nuit du 5 décembre 1637 fût fertile. Louis XIII avait hésité. Il voulait se rendre au château de Saint-Maur, mais au moment où il quittait le couvent, l'orage s'était déchaîné, transformant les rues en torrents. Saint-Maur était loin. Le château était vide, les meubles sous l'averse. Le capitaine des gardes avait insisté pour qu'on reste à Paris, qu'on gagne le Louvre, où un grand feu devait crépiter dans les cheminées de la reine. Louis XIII avait cédé enfin, et s'en était allé souper au Louvre. Oublié pour quelques heures le souvenir affreux de la nuit de noces, quand 2 enfants maladroits qu'on a mariés sont poussés dans un lit. Oublié aussi les humiliations de l'une et de l'autre. Celle de Louis XIII quand il avait appris que son épouse s'était laissée voler quelques baisers par l'ambassadeur d'Angleterre, le duc de Buckingham. Puis que cette reine de France, restée Anne d'Autriche, une Habsbourg, avait entretenu, alors que la guerre opposait la France à l'Espagne, une correspondance avec les ennemis du royaume. Humiliation. Trahison. Et celle d'Anne d'Autriche, qui avait été démasquée par Richelieu, contrainte de rédiger des aveux, de reconnaître donc sa culpabilité, et d'être ainsi menacée de répudiation, obligée de s'en remettre au bon vouloir de ce cardinal, de cet homme rouge, qui jouait avec elle, et semblait pourtant sensible à ses charmes. Oubliée pour une nuit, ces 20 années d'incompréhension, de jalousie et de dépit, d'impuissance et de stérilité. Sortant du Louvre, alors que l'orage a cessé en cette matinée du 6 décembre 1637, Louis XIII fait un vœu à la Vierge, consacre le royaume de France à la Mère du Christ, et quelques semaines plus tard, en février 1638, on apprend qu'Anne d'Autriche, enfin, porte un enfant. Dieu et la Vierge soient loués. L'enfant naîtra vers 11 heures, le 5 septembre 1638, au château neuf de Saint-Germain. alors que dans toutes les pièces ont pris depuis le commencement des douleurs, il y a plus d'un jour.